ici, que ce soit avec, dans n'importe quelle assemblée, dans n'importe quelle congrégation, n'importe quel message au nom de Dieu, de la Bible, c'est que vous alliez voir vous-même pour ce qu'il en est. Et ne pas prendre la parole de l'intervenant comme une parole d'évangile. Surtout lorsqu'il fait des commentaires et qu'il ne se contente pas simplement de lire la parole. Ben moi, je dois dire que je suis content des habitants de Nice, parce que dimanche dernier, il y a plusieurs personnes qui sont venues me trouver en me posant des questions sur ce que j'avais dit vis-à-vis de la peine de mort, et je m'en réjouis. Donc, si vous avez des problèmes avec ce que j'annonce, des problèmes avec ce que je dis, ne les gardez pas pour vous, en murmurant ou en les gardant pour vous tout seul, mais venez m'en parler. Et je crois que c'est une très bonne chose. Il est vrai que la parole, c'est la vérité. Ce que je peux ajouter, ce que je peux dire, n'est pas nécessairement la vérité. Je prie que le Seigneur me guide. Et le sujet de la peine de mort va revenir dans le chapitre 17. Donc je ne sais pas si on y arrivera aujourd'hui. Mais sachez encore une fois, qu'on peut être un bon chrétien sans être convaincu que de la nécessité de la peine de mort, de sa validité. La semaine dernière, ce que je voulais susciter comme réaction, c'est de ne pas prendre le bien pensé du moment comme la vérité de l'Évangile. Et c'est vrai qu'en ce moment, se dire pour la peine de mort, ça paraît rétrograde, ça paraît imbécile, ça paraît arriéré, ça paraît obscurantiste. Mais là encore une fois, je vous invite à aller voir ce que la parole de Dieu nous dit de ce sujet. Il est vrai qu'on fait une distinction entre ce qui apparaît dans l'Ancien Testament, qui est une image de beaucoup de choses à venir, qui est aussi un premier enseignement que Jésus lui-même a corrigé en disant « Vous avez entendu qu'il a été dit, moi je vous dis que c'est en fait plus difficile, parce que vous vous arrêtiez aux choses extérieures, moi je vous parle de votre cœur. Mais en ce qui concerne la peine de mort, et on y reviendra, il y a des indications dans le Nouveau Testament qui montrent que l'épée, c'est-à-dire le pouvoir de vie et de mort, a été donné au gouvernement pour le bien de tous. Alors sans rentrer dans un autre débat, on en parlera, mais encore une fois, je veux dire à tous ceux qui m'ont parlé, et c'est vrai que j'ai peut-être mal présenté, il y avait des arguments, j'étais pressé par le temps, j'ai pas eu le temps d'exprimer clairement ma pensée. Mais encore une fois, merci à tous ceux qui sont venus me parler et me dire qu'ils étaient pas d'accord, qu'ils avaient un problème, ou que c'était mal dit ou mal présenté. Je suis très heureux de savoir que vous réagissez. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole parce qu'elle est la vérité. Merci Seigneur de ce que en elle nous avons tout ce qu'il faut pour la vie, la piété. Et Seigneur, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas clairement révélées, mais Seigneur, il y en a tellement qui sont clairement révélées. Tu nous dis dans le Deutéronome 29:29 que les choses cachées, celles que tu n'as pas encore révélées, Seigneur, elles t'appartiennent. Ce n'est pas à nous d'aller essayer de les deviner si elles n'ont pas été clairement révélées. Par contre, Seigneur, nous te demandons la présence de ton esprit, nous te demandons ta force, nous te demandons la persévérance pour les appliquer, pour les mettre en pratique, Seigneur, comme Moïse invitait le peuple d'Israël à le faire. Béni sois-tu pour cette parole, Seigneur. Aide-nous, aide-moi, Seigneur, à l'annoncer en vérité, en puissance, par ton Esprit Saint, Seigneur, qu'elle puisse transformer les vies et les cœurs. Par le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Deutéronome 14. Deutéronome 14. Moïse, on n'a plus très longtemps sur cette terre. Et le Deutéronome, c'est son serment d'adieu. Il rappelle parce que les Juifs, comme nous tous, nous avons besoin qu'on nous rappelle les choses parce que nous sommes oublieux, nous avons tendance à oublier. Dans le chapitre 14, on trouve d'abord des règles concernant le deuil. Verset 1, « Vous êtes des fils pour l'Éternel votre Dieu, vous ne ferez pas d'incision et vous ne vous ferez pas de place chauve entre les yeux à l'occasion d'un décès. » C'est un peu bizarre ça. « Car, dit-il, tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre parmi tous les peuples qui sont à la surface du sol. » Première chose, donc, le peuple juif, qui est le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, doit se distinguer des gens qui l'entourent en étant différent. C'est ce que être saint veut dire, ça veut dire être séparé. Et là, il leur dit de ne pas se faire de place chauve entre les yeux. Bizarre. On pense, en fait, que c'était une coutume funéraire des peuples païens. S'ils avaient un deuil, ils se rasaient pour être sûr qu'il n'y avait pas de sourcils entre les deux yeux. On ignore l'origine de cette pratique. Et aussi, ils se faisaient des incisions, ils se meurtrissaient le corps un peu pour souffrir. Et là, Moïse leur dit non, ne faites pas ce genre de choses. Dans notre société, nous avons évacué tout symbole funéraire, pratiquement. Ça se passe dans des pièces aseptisées à l'hôpital. Quand j'étais enfant, lorsque quelqu'un décédait à Paris, on mettait une grande tenture noire sur le domicile de la personne avec une grosse lettre, une initiale. Les gens portaient encore des brassards de deuil. Les gens s'habillaient encore en noir. Maintenant, c'est terminé. Mais ce que Moïse leur dit, c'est que ils doivent être différents parce que c'est vrai, en tant que chrétiens, en tant que peuple de Dieu, ils avaient et nous avons une autre vision des choses sur le deuil. Si la personne qui décède est chrétienne, nous devrions sauter de joie pour elle, nous réjouir de ce qu'elle est enfin en la présence du Seigneur. Et ce matin, on évoquait les difficultés de la vie, qui peuvent être des difficultés légères ou qui peuvent être des difficultés très lourdes lorsqu'on est affecté par la maladie, par l'exil, par la pauvreté. Mais la personne dans la présence de Dieu, c'est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Et si nous avons du chagrin pour la personne, en fait, c'est bien souvent un chagrin très égoïste. Ce n'est pas la personne qui est à plaindre, c'est moi qui ne vais plus pouvoir jouir de sa présence, de son amour. Et c'est vrai que le chrétien ne doit pas s'attrister comme ceux qui n'ont pas d'espérance, nous dit Paul dans 1 Thessaloniciens. Le reste du chapitre 14 poursuit avec des règles d'hygiène alimentaire qui seront développées dans le livre du Lévitique notamment. Et il y a tout un tas de règles qui apparemment sont des choses qu'on suit à la lettre sans trop savoir pourquoi. Verset 3, tu ne mangeras rien d'impur. Voici les animaux que vous mangerez, le bœuf, l'agneau, le chevreau, le cerf, la gazelle, le daim, le bouquetin, le chevreuil, le bouflon, l'antilope. Vous avez mangé l'antilope récemment. Vous mangerez toute bête qui a le sabot fendu, le pied fourchu avec deux sabots et qui rumine. Mais voici ce que vous ne mangerez point parmi ceux qui ruminent et qui ont le sabot fendu et fourchu, le chameau, le lièvre et le daman qui ruminent mais qui n'ont pas le sabot fendu, ils seront impurs pour vous. Le porc qui a le sabot fendu mais qui ne rumine pas, il sera impur pour vous. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas à leur cadavre. Puis il continue en indiquant les poissons, les animaux marins. On peut manger de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles. Mais aucun, verset 10, de ceux qui n'ont point de nageoires ou d'écailles, ils seront impurs pour vous. Les oiseaux, verset 11, vous mangerez tout oiseau pur. Mais vous ne mangerez pas le vautour, l'orfraie, l'aigle de mer. Il continue en donnant des rapaces, des oiseaux qui se nourrissent d'animaux morts. Verset 19. Toute bestiole ailée sera impure pour vous, on n'en mangera pas. Verset 21. Vous ne mangerez d'aucune bête morte. Tu la donneras à l'immigrant qui résidera avec toi afin qu'il la mange, ou tu la vendras à un étranger, car toi, tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Donc toute une série de prescriptions, de règles d'alimentation qu'on peut trouver a priori un peu bizarre, un peu superstitieuse, mais on sait que ces règles d'hygiène ont préservé les populations juives qui les respectaient au cours des siècles. Notamment au Moyen-Âge, lors de des grandes épidémies de peste, les juifs n'avaient pas le même taux de mortalité, ce qui faisait des jaloux et que certains accusaient les juifs d'être responsables par leur pratique d'amener la peste. À la lumière surtout de la médecine moderne, on comprend maintenant le bien fondé de ces règles. Et ce qui est formidable, c'est de réaliser qu'à la même époque, en Égypte, on a trouvé des manuscrits qui donnaient des consignes d'hygiène alimentaire ou des consignes de remèdes médicinaux du genre pour justement lutter contre la perte des cheveux. Il fallait faire des onctions de graisse de cheval, de crocodile, en ajoutant dans la potion la dent d'un âne cuit dans du miel. Donc on en était vraiment au niveau des superstitions, des choses qu'on trouve dans la sorcellerie, des vrais remèdes de charlatans. Par contre, toutes les prescriptions alimentaires que nous trouvons ici ont une valeur physique qui a été découverte bien plus tard. On sait par exemple que sans la réfrigération, la viande de porc est très propice aux parasites qui donnent des maladies aux gens. Dans les manuels de survie, on utilise encore la règle de ne pas manger d'animaux marins qui n'ont pas d'écailles ou qui n'ont pas de nageoires. Pourquoi ? Parce que les animaux qui ont des nageoires et des écailles sont tous bons à consommer. Il n'y a pas de danger d'empoisonnement. Ce qui est formidable, c'est que Moïse n'avait pas Internet pour aller voir ces choses-là. C'était Dieu qui lui avait donné cette information. Cette information confirmée par la médecine moderne est la preuve qu'elle ne venait pas de récits de bonnes femmes, mais qu'elle a été vraiment transférée par Dieu. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Aujourd'hui encore, les juifs orthodoxes ne vont pas manger de fromage avec de la viande, parce qu'ils ont peur que le lait qui a servi à la confection du fromage ait été utilisé, le lait de l'animal qu'ils vont manger, quand ils mangent de l'agneau ou de la chèvre. Pourquoi cette interdiction? Certains pensent que c'était un rite païen phénicien où ils tuaient l'animal et le faisaient cuire dans l'animal et le faisaient cuire dans le lait de sa mère. Peut-être le fait que c'est une violation de ce qui est naturel, l'amour filial. On parle aujourd'hui de la fête des mères. Faire cuire son enfant dans son lait, c'est presque une horreur, rien qu'à la pensée. Toutes ces prescriptions, encore une fois, il faut se rappeler qu'elles ont une signification spirituelle aussi. Alors la signification peut être plus ou moins évidente. Et là encore, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec une interprétation qui n'est pas clairement indiquée dans le texte. Mais beaucoup de commentateurs se plaisent à dire qu'en fait, cette histoire de sabots fendus et de rumination, de digestion, il fallait verset 8 qu'il rumine, verset 7 pardon, ont des applications spirituelles. Le sabot fendu, divisé, c'est aussi peut-être un symbole de la séparation qui devait être celle du juif et qui doit être celle du chrétien. Le chameau rumine, mais il n'a pas les sabots fendus, c'est mauvais. Le porc a les sabots fendus, mais il ne rumine pas, c'est mauvais. La rumination, en termes de l'Ancien Testament, c'est aussi souvent le mot qui est utilisé pour la méditation de la parole. Par ce texte, par ces prescriptions, on peut voir que Dieu nous rappelle qu'on doit être séparé et qu'on doit lire, relire, penser, réfléchir, comme ruminer la parole de Dieu. Et je vous invite, si vous ne l'avez jamais fait, à prendre simplement un verset. On a souvent tendance à prendre un guide de lecture de la Bible où il faut lire un chapitre et demi ou deux chapitres pour arriver à avoir lu toute la Bible en un an. C'est très bien. Mais prenez des fois un seul verset et réfléchissez-y. Écrivez-le sur un papier et demandez à Dieu de vous montrer des choses. Posez-vous des questions. Quel serait l'inverse de ce verset? Comment est-ce qu'on pourrait dire? Quelle serait la conséquence de ne pas faire ce que dit le verset? Est-ce que j'ai une leçon à apprendre? Et la parole de Dieu est de cette richesse qu'elle va vous nourrir comme un aliment. Jésus a dit que on ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Cette rumination est salutaire, elle est bonne pour l'âme. Alors c'est vrai que ces prescriptions pouvaient conduire au légalisme. On a vu la semaine dernière qu'il ne fallait pas consommer le sang, parce que le sang représentait la vie. Mais Jésus avait repris les pharisiens légalistes. Il leur disait qu'ils étaient des conducteurs aveugles, qui retenaient au filtre le moucheron, mais qui avalaient le chameau. Et donc, ils avalaient le chameau. Si on leur servait du chameau, ils étaient prêts à le manger. Mais là, nous venons de voir que c'était un aliment impur. Par contre, si en se promenant dans la rue, ils avalaient un petit moucheron, ils allaient se mettre dans un coin en essayant de régurgiter le moucheron. Pourquoi ? Parce que le moucheron n'avait pas été vidé de son sang. Donc ça, c'est le légalisme bête qui les guettait et qui nous guette nous aussi. Gardons-nous de faire des choses, encore une fois, parce que ce sont des rituels vides de sens. Typiquement, ici, nous avons un rituel léger, mais c'est vrai qu'on a une façon de commencer par la prière, de façon de commencer par la louange. Encore une fois, c'est pas un ordre immuable. C'est pas un ordre établi par Dieu. Dieu, il veut notre cœur. Et le danger, c'est justement lorsqu'on, après 150 ans, si on se réunit toujours à l'hôtel de Noah, il y aura des gens qui viendront, ils ne sauront pas pourquoi ils font telle chose, mais ils le feront. Non, Dieu veut pas de légalisme. Pas suivre des choses parce qu'on les a toujours faites, ou pas suivre des choses parce qu'on a entendu dire. Une richesse, une relation avec Dieu qui peut nous dire des choses nouvelles, qui peut être spontanée. Jésus avait dit qu'il n'y avait rien du dehors qui pouvait rendre l'homme impur. Il dépassait la loi. La loi avait un but à l'époque. Elle avait un but d'hygiène alimentaire. Elle avait aussi un but de séparation du peuple de Dieu. Mais en fait, Jésus lui-même a dit, ce qui compte, c'est votre cœur. Et il est dit, rien de ce qui est du dehors entre dans l'homme ne peut le rendre impur, cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué à l'écart. Et ainsi, il est dit, il déclarait pur tous les animaux. Ce qui sort de l'homme, voici ce qui le rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dehors, et rendent l'homme impur, dans Marc 7, 14. Les règles concernant l'alimentation, les règles concernant nos offrandes, concernant la dîme, verset 22, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que te rapportera ton champ chaque année, qui mangera devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire demeurer son nom, la dîme de ton blé, de ton vin nouveau, de ton huile, les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. » Et on dirait que Dieu leur disait de se réunir dans un endroit bien précis, qui avait fini par être Jérusalem. Et c'est vrai que là, ils devaient apporter la dîme, donc le dixième de ce que produisait leur récolte. Et le sens, ce n'était pas, encore une fois, quelque chose de légaliste, c'était quelque chose qui disait, on offrait le dixième en signe que, de reconnaissance que tout appartenait à Dieu. Alors là aussi, on pourrait penser que, bon, ça appartenait à l'Ancien Testament, c'est fini. Mais dans le Nouveau Testament, on trouve des indications. D'abord, dans le dernier livre de l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Malachie, verset 3-10, Dieu se plaignait déjà de ce que les gens ne lui donnaient pas ce qui lui revenait. Il disait « Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. » Un principe, tout appartient à Dieu, le fait de lui donner un dixième ou une certaine partie, c'est de reconnaître ce fait. Et dans ce domaine, Dieu dit qu'on peut le mettre à l'épreuve. Il est dit partout ailleurs que vous ne tenterez jamais votre Seigneur. C'était dans... Jésus avait repris cette parole du Deutéronome lorsqu'il avait été tenté par Satan. Sauf dans ce domaine. Dieu dit, si vous voulez me mettre au défi, alors donnez-moi de l'argent, donnez-moi de votre temps, donnez-moi de vos ressources, et on va voir si vous n'allez pas en retrouver davantage. Si moi, je ne vais pas vous en donner plus que vous pouvez m'en donner. Et, encore une fois, voir ce que dit le Nouveau Testament. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 9, « Celui qui sème peu, celui qui donne peu, que ce soit financièrement, de son énergie, de ses ressources, moissonnera peu. Si vous êtes radin, vous n'allez rien avoir. Celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. » Un principe, un autre principe, c'est qu'on doit donner avec joie. Si on donne à contre-cœur, Dieu n'est pas impressionné. Dieu voit notre cœur. Si on rouspète en donnant, mieux vaut ne pas donner. Et c'est vrai pour ce qui nous concerne ici, la dîme à Calvary, le Nice, la chapelle Nice. Nous fonctionnons sur un principe de don, d'offrande. Là aussi, devant Dieu, voyez combien Dieu veut que vous donniez. La dîme peut être une indication de ce qu'il pourrait demander. Sachant que dans l'Ancien Testament, la dîme, en fait, il y en avait plusieurs, et qu'au total, ça faisait 23%. Quelqu'un faisait le calcul. Mais l'important, c'est de le décider dans son cœur, et de le résoudre, se résoudre à le faire. Et ce qui compte, c'est pas le montant de la somme donnée, mais c'est votre cœur. Est-ce que vous êtes prêt à aider au travail de Dieu, à ce que d'autres personnes connaissent son amour, connaissent son salut? Et beaucoup de personnes qui n'ont jamais donné de la sorte, en fait, bien souvent, c'est parce qu'ils n'ont jamais essayé. Et souvent, on peut se dire, mais je suis au chômage, je touche à peine le RMI, qu'est-ce que je vais aller faire de donner 10%? Le Seigneur vous dit, dans Malachie, il vous le dit encore dans le Nouveau Testament, mettez-moi au défi. Donnez-moi financièrement, encore une fois, c'est pas seulement financièrement, ça peut être de votre temps. On a le temps de rien faire aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'il y en a qui en ont trop de temps en ce moment? L'argent encore, on peut pas avoir des fans moins, mais le temps n'a pas. Il y a une liste d'activités, d'opportunités de service. Peut-être que vous dites ça, ça serait intéressant, mais je vais pas avoir le temps. Le Seigneur veut vous dire que si c'est lui qui vous parle, il vous met au défi de lui consacrer un peu de temps. Il vous promet qu'il va vous le rendre au centuple. Pas au centuple, mais il va vous le rendre au-delà de ce que vous avez donné. Et il peut le rendre au centuple. Si vous prenez pas le temps de le prier le matin, vous allez vous précipiter dans la journée, dans les activités. Ça va être le chaos. Vous allez revenir, vous avez oublié des choses. Vous allez partir, il va falloir chercher des choses. Si vous lui donnez du temps, il va vous aider à vous organiser. Il va faire que votre journée soit fructueuse. Encore une fois, toutes ces choses-là, on les fait non pas en disant « Ah, si je donne 100 francs, je vais avoir 300 francs. » On les fait parce qu'on veut donner de son cœur à Dieu. On veut lui montrer notre reconnaissance. Sachant que il va nous récompenser. On ne le fait pas pour la récompense, mais c'est une loi. Le moissonneur, l'arroseur est arrosé. C'est le premier film français des Frères Lumière, L'arroseur arrosé. C'est aussi la vérité de la Bible en ce qui concerne la Bible, la dîme, pardon. Verset 26. Si on ne pouvait pas, la dîme, donc c'était apporter des animaux, des récoltes, si c'était trop loin, on pouvait vendre et apporter l'argent pour racheter à Jérusalem ou à l'endroit prescrit des offrandes qu'on offrait. Là, tu échangeras contre, verset 26, tu échangeras de l'argent contre tout ce que tu désireras, gros et menu bétail, vin et liqueur, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras là devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. La dîme, encore une fois, ça doit nous remplir de joie. Le fait de savoir qu'on donne pour l'œuvre du Seigneur, c'est quelque chose qui va donner de la joie. Si on n'a pas cette joie, autant attendre que le Seigneur la donne. Paul dit que dans 2 Corinthiens 9, encore, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse. Oh, je donne ça, mais zut alors. Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et le mot qui est utilisé avec joie, c'est le mot qui nous donne le mot en français d'hilarité. C'est de donner en riant, donner avec joie. Et encore une fois, les prescriptions de Dieu, c'est pas pour nous rendre malheureux. Il veut notre bonheur, il veut notre joie. C'est un mot qui revient sans arrêt dans ce livre du Deutéronome. Le chemin du bonheur, c'est le chemin de l'obéissance à Dieu. Il veut nous le rappeler à tous les tournants. Parce que nous avons tendance à croire le mensonge, que désobéir, ça c'est là que c'est bien. Tu te réjouiras. Chapitre 15, la sécurité sociale divine. Encore une fois, si le peuple juif avait obéi à ses commandements, si nous étions dans une société qui obéissait à ses commandements, ce serait formidable. Ce serait formidable. Le problème, c'est que nous avons une nature de pécheur qui nous empêche d'obéir parfaitement. Mais le chapitre 15 nous parle en fait qu'au bout de 7 ans, il fallait qu'ils observent la règle de la remise. Ça voulait dire que si quelqu'un avait une dette, verset 2 l'explique, tous les 7 ans, on suspendait le paiement du remboursement de la dette. Pourquoi ? Parce que comme il y a un sabbat, un repos pour l'homme, tous les 7 jours, il y avait un sabbat pour la terre. Là encore, on peut dire que c'est bizarre comme prescription, c'est un peu superstitieux, mais la science, l'agronomie nous a montré que c'était très bon pour la terre que de laisser la terre en jachère, de ne pas la laisser cultiver, de la laisser plutôt non cultivée, pour que les minéraux se reforment, que la pluie fasse son œuvre. Et donc, pendant tous les 7 ans, la terre n'était pas cultivée. Les personnes qui travaillaient, qui avaient peut-être des dettes, n'avaient plus de revenus pendant 1 an. Et là, on leur donnait un peu de répit, on leur disait, puisque vous n'avez pas de revenus, on ne va pas vous demander de rembourser la dette. Il y avait une autre mesure qui faisait que tous les 7 fois 7 ans, donc 49 plus 1, tous les 50 ans, on avait l'année du jubilé où la dette était complètement annulée. On ne devait plus rien à plus personne. C'est pas mal ça, si votre carte de crédit, vous envoyez un petit mot, cette année votre dette est annulée. Vous avez peut-être entendu parler du jubilé pour les pays du tiers-monde. Je crois que ce serait encore sage de la part des États les plus riches de la Terre de faire preuve de cette générosité, d'annuler le remboursement de la dette des pays du tiers-monde, des pays qui sont endettés, qui n'ont pas les moyens qui sont toujours dans le rouge, qui n'ont pas les moyens de s'en sortir, de leur dire on annule votre dette. Alors là encore, vous êtes libre de ne pas être d'accord avec moi, mais je vois là une application pratique de ce principe de générosité. La générosité, Dieu la récompense toujours. Verset 4 nous dit « Il n'y aura pas de pauvre chez toi, car l'Éternel te comblera de bénédictions dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage pour que tu en prennes possession, pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel ton Dieu. » Encore une fois, s'ils obéissent, alors à ce moment-là, il n'y aura pas de pauvreté. La prospérité, non seulement matérielle, mais physique, notre bien-être spirituel, encore une fois, procède de notre obéissance. Heureux l'homme qui marche les jours. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait réussit. Si vous voulez avoir du succès, le sentiment de faire des choses qui aboutissent, Dieu vous dit de lui obéir. Il y avait le roi Ozias qui avait succédé au mauvais roi Amatsia. Il est dit dans 2 Chroniques qu'il s'était appliqué à rechercher l'Éternel et Dieu lui avait donné du succès. Trop souvent les gens cherchent le succès en oubliant Dieu. Dieu nous promet que si nous cherchons d'abord, nous aurons le succès. Alors c'est pas nécessairement qu'on aura l'Oscar à Hollywood, la plus grosse voiture du quartier, la plus belle villa de la côte, mais on aura cette paix, cette joie intérieure, cette prospérité spirituelle qui peut, bien sûr, englober une prospérité matérielle, ou du moins une absence de soucis matériels. L'Éternel, ton Dieu te bénira, verset 6, comme il te l'a dit, tu prêteras sur gage à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas, tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront pas sur toi. Vous savez que beaucoup de financiers juifs sont devenus les grands banquiers de ce monde. Le plus célèbre, c'était la famille Rothschild. C'est vrai qu'à l'époque, le pape, au Moyen-Âge, le pape interdisait aux chrétiens de prêter de l'argent avec intérêt. On avait retiré aux juifs le droit d'être cultivateurs, d'être paysans, d'être fonctionnaires. Il ne leur restait que le monde du commerce, de la finance, de la banque. Et ils ont prêté sur gage à beaucoup de nations. Ils n'empruntent pas. On ne peut pas dire vraiment qu'ils ne dominent pas sur beaucoup de nations. Encore une fois, parce qu'ils n'ont pas parfaitement obéi à Dieu. L'origine donc de la richesse entre guillemets de les banquiers juifs, et se trouve ici, ils prêteront sur gage à beaucoup de nations. Verset 7, s'il y a chez toi quelques pauvres parmi tes frères qui résident avec toi, dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main devant ton frère pauvre, mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras sur gage de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'avoir dans ton cœur des pensées détestables et de dire la septième année, l'année de la remise approche, garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère pauvre et de ne rien lui donner. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Fais-lui un don et que ton cœur ne lui donne pas à regret, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Encore une fois, Dieu nous invite à inviter le peuple juif, et nous le savons dans le Nouveau Testament, nous invite à la générosité envers les moins favorisés que nous, envers ceux qui sont pauvres. On peut fermer son cœur ou ouvrir sa main. Il est difficile de fermer son cœur lorsqu'on ouvre sa main. Et c'est ce à quoi Dieu nous invite. Et là, il les met en garde de se dire, attention, la septième année approche, c'est quand là, on va plus toucher les revenus pendant un an, donc je vais arrêter de prêter, je vais arrêter d'être gentil parce que je vais rien retrouver sur eux. Gardez-vous d'avoir une pensée détestable. Et je crois que nous aussi, nous devons donner sans espoir de revoir. Parce que, un verset que vous connaissez peut-être pas très bien, et qui est fondamental, c'est Proverbe 19-17. Proverbe 19-17, page 642 dans la Bible à la Colombe. Celui, verset 17, qui a pitié de l'indigent, prête à l'Éternel, qui lui rendra ce qui lui est dû. Quand on aide les pauvres, on prête de l'argent à Dieu. Et on peut être confiant que Dieu rembourse ses emprunts. C'est un principe de générosité chrétienne, ne pas avoir le sentiment qu'en donnant à l'autre, on s'appauvrit soi-même. On peut le faire, on peut être prêt à se sacrifier, mais encore une fois, Dieu regarde, Dieu est conscient, et Dieu donne en retour. Encore une fois, pas nécessairement matériellement, mais la joie d'avoir aidé une personne dans le besoin, la joie d'avoir aidé une famille, des enfants, une personne malade. Ce principe a même été à la base de certaines entreprises chrétiennes. Il y a par exemple un chrétien qui avait décidé qu'il allait donner 90% de ses bénéfices à l'œuvre de Dieu. Il y avait une entreprise qui vendait des céréales. Chaque fois qu'il avait, à la fin d'année, il faisait du bénéfice, il aidait des églises, il aidait des missionnaires, il aidait à construire des églises. Il ne gardait pas pour lui, il ne gardait que 10%. C'était la dîme bien comprise. Il gardait la dîme, il donnait la 90 dîmes à Dieu. Et cette entreprise, elle vit, ça c'était au siècle dernier, elle vit encore aujourd'hui, elle est toujours prospère. L'autre jour, je mangeais des céréales et j'ai remarqué que c'était une boîte de céréales de Quaker Oats. Quaker Oats, c'est cette compagnie qui existe toujours. Dieu a béni, Dieu a récompensé la générosité. Je crois que le principe, c'est de réaliser que c'est entièrement contre la logique économique. On se dit, si on donne, on va s'appauvrir. Parce qu'on a une vision de pénurie du monde. On pense qu'il y a un certain montant de richesse, que si j'en donne, ce sera moi qui n'aurai plus. Dieu a une vision totalement différente de l'économie, qui devrait inspirer nos gouvernements, qui devrait inspirer nos pays, qui devrait inspirer nos conduites personnelles, les conduites de notre Église pour être généreux. Il ne manquera pas de pauvres au milieu du pays, c'est pourquoi je te donne ce commandement, verset 11, tu devras ouvrir ta main à ton frère, aux malheureux et aux pauvres dans ton pays. S'il y avait ce genre de générosité, je crois qu'on aurait beaucoup moins de tensions sociales, on aurait beaucoup moins de luttes, souvent fratricides, ou des grèves qui appauvrissent le pays en entier. La générosité, l'amour de l'autre. Un autre élément, c'est la libération des esclaves et des serviteurs. Verset 12, si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vante à toi, il te servira 6 années, la septième année, tu le rendras libre, tu le renverras libre de chez toi. Et verset 13, tu ne le renverras pas les mains vides. Tu le pourvoiras de présent, pris sur ton menu bétail, sur ton aire, sur ton pressoir, tu lui donneras des biens dont l'Éternel ton Dieu t'aura béni. Encore une fois, tout ce que nous avons, c'est des bénédictions de Dieu, c'est pas à nous. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a libéré. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Toutefois, si ton esclave te dit « Je ne veux pas sortir de chez toi parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi », alors, pratique un peu bizarre, tu prendras le poinçon et tu lui perceras l'oreille contre le battant de la porte, et il sera pour toujours ton esclave, tu feras de même pour ta servante. Autrement dit, si un juif avait un esclave juif, au bout de 6 ans, il devait le libérer pour la 7e année, en lui donnant des biens. Mais si jamais la personne disait « Mais je veux pas partir, moi, je t'aime bien, je suis bien ici », à ce moment-là, il devenait un esclave volontaire. Un esclave volontaire. Il y avait cette coutume bizarre où, aujourd'hui, on se perce le nez, on se perce la langue, le nombril pour mettre des anneaux. Là, on faisait simplement un trou, sans bague apparemment. On mettait contre la porte. « Viens voir !» Tu avais contre la porte, et avec un poinçon, on faisait un trou, et ça c'était un signe pour les autres, que la personne était esclave volontaire. Peut-être que maintenant, à la SNCF, il y aurait des gens avec un trou dans l'oreille, parce qu'ils se plaisent tellement à la SNCF, qui veulent y rester, sans contrainte, sans... Et ce qui est intéressant, c'est que ce symbole de l'oreille percée, on le retrouve dans les psaumes. Vous savez que Jésus s'est livré lui-même en esclave. Et dans le psaume 46, il est dit, c'est un psaume messianique, « Tu n'as désiré ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert, on pourrait dire aussi creusé ou percé l'oreille, tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Ça nous rappelle qu'en fait, c'est une préfiguration du fait que Jésus est devenu un esclave volontaire. Jésus n'est pas venu contraint et forcé ici. Jésus-Christ, par amour pour nous, volontairement, est devenu un de ces esclaves avec l'oreille ouverte, avec l'oreille prête à recevoir un anneau. Il s'est donné lui-même, sans contrainte, simplement par amour. Donc une très belle image dont qu'on peut suivre dans d'autres endroits de la Bible où il est question de cette oreille percée. L'homme a l'oreille percée, je crois que c'était un livre de Tintin, cassé. Non, c'était le cassé, hein. Percé, c'était Van Gogh. Mais là, c'est un type de l'amour volontaire de Jésus qui s'est fait volontairement esclave de nous. Ensuite, chapitre 16 nous parle... Je saute sur les passages qu'on a déjà vus. Il est question, on y reviendra même un peu plus tard, lorsqu'on fait une offrande à Dieu, on lui donne pas un animal boiteux, ou on donne quelque chose qui nous coûte. Si on donne, c'est pour ça que il ne s'agit pas de donner un certain montant, il s'agit de donner un certain pourcentage ou quelque chose qui représente une difficulté pour nous, un acte de foi. Comme cette vieille veuve, cette cette pauvre veuve qui n'avait donné que 2 pièces de 100 sous, mais Jésus la prenait en exemple, elle a donné de son besoin, alors que ces autres qui faisaient sonner les trompettes lorsqu'ils faisaient tomber leurs pièces dans les boîtes à offrandes, eux ne donnaient que de leur superflu. Est-ce que je donne de mon superflu? Est-ce que je dois faire preuve de foi lorsque j'offre quelque chose, lorsque je soutiens mon église, lorsque je soutiens des missionnaires? Ou est-ce que je donne? Non, là, de la même façon qu'on ne donne pas quelque chose qui ne nous coûte pas, en animaux, c'est une invitation à donner quelque chose qui est beau à nos yeux. Je rappelle les fêtes du peuple juif. Il y avait essentiellement 3 grandes fêtes. Tout homme juif devait se présenter devant Dieu à Jérusalem pour célébrer ces 3 fêtes. Il y avait la fête de la Pâque, la fête de la Pentecôte et la fête des huttes, c'est pas très bien. Pâques, c'était la fête des pains sans levain, et vous vous souvenez que c'était une commémoration. Pâques regardait vers le passé, à la délivrance du peuple juif, du pharaon. Vous vous souvenez que le pharaon ne cédait pas devant les fléaux d'Égypte que Moïse invoquait sur l'Égypte, et toutes ces choses, ces catastrophes naturelles ou surnaturelles, et que finalement Dieu avait suggéré que les premiers-nés des familles seraient tués par l'ange de l'Éternel, l'ange de la mort. Et il y avait un remède, c'était de manger un agneau sans problème, sans tache, et de répandre le sang sur le chambranle, sur l'encadrement de la porte. Et lorsque l'ange de la mort venait pour tuer ses premiers-nés, il voyait le sang et il passait au-dessus. Et bien sûr, nous avons souvent expliqué que c'est un très beau type, très belle préfiguration du sang de l'agneau qui ôte le péché du monde, le sang que Jésus a versé à la croix. Si je viens à lui, si je l'accepte dans mon cœur, alors c'est comme si j'avais son sang sur ma tête, sur mon sang sur la porte de mon cœur. Lorsque l'ange de l'Éternel viendra, je serai sauvé. Je ne serai pas mort pour l'éternité. Donc la Pâque, et Paul a clairement expliqué cela, on l'avait vu dans 1 Corinthiens, Christ est notre Pâque. Il est l'agneau qui a donné son sang. Et lorsque l'ange voit que le sang est sur nous, il sait que la punition a déjà été payée. Et donc, cette Pâque, c'était une commémoration de cette fuite d'Égypte. Il y avait aussi la nécessité de partir en préparant du pain sans levain, parce qu'ils n'avaient pas le temps d'attendre que le levain agisse dans la pâte. Aussi, lorsqu'elle prépare de la pâte de pizza, mais du levain, et ça reste là plusieurs heures, ils n'avaient pas le temps de faire ça. Donc, ils s'étaient partis avec des pains sans levain, mais on sait aussi que dans l'Ancien Testament, le levain, qui est une espèce de corruption, est un type, un symbole du péché. Et donc, il y avait les femmes juives, après, pour nettoyer leur cuisine, s'assurer qu'il y avait le grand nettoyage de printemps, c'était pour s'assurer qu'il ne restait pas du levain derrière les fourneaux, derrière les tables. Il y avait ce désir de se purifier de ce levain, symbole du péché. Et c'est pour ça qu'on appelle il y avait la fête de Pâques, suivie d'une semaine de la fête des pains sans levain. C'était une commémoration. À l'époque, la Pâque juive tombait à une date fixe. C'était bien pratique. Le 15 du mois de Nissan. Donc, à la période de printemps. Maintenant, on a un calcul très complexe. J'ai trouvé sur Internet un petit programme qui peut vous donner les dates de Pâques et des fêtes mobiles jusqu'à l'an 10 000. Après, il faudra un autre programme. Mais maintenant, pour votre information, la Pâque est déterminée comme étant le premier dimanche après la pleine nuit qui suit l'équinoxe de printemps. Hein, le premier dimanche après la pleine nuit qui suit l'équinoxe de printemps. Donc ça varie en fait du 15 mars au 30 avril, je crois. Et en plus des corrections qui sont exigées parce que l'année julienne, il y a eu des années qui ont disparu, des journées qui ont disparu pour équilibrer l'année. Si bien que maintenant, la fête de Pâques, qui est un héritage de cette fête juive, et qui maintenant se centre sur la célébration, la commémoration de la vraie Pâque, de Jésus-Christ donnant son sang pour nos péchés, elle n'est pas aussi facile à déterminer. Ça, c'était la commémoration, regardez en arrière. Maintenant, il y a l'anticipation avec la fête de la Pentecôte. C'est la fête des semaines ou la fête des premiers fruits. Il devait compter 7 semaines. Et 7 semaines, ça faisait 49 plus 1, ça faisait 50 jours, d'où le mot Pentecôte qui veut dire 50 en grec. Et ça, c'était... On regardait à la récolte qui allait venir. Vous vous souvenez que la Pentecôte, dans le livre des Actes, c'était la première prédication d'un apôtre, de Pierre, et il y avait eu 3000 premiers fruits, qui étaient l'anticipation, qui étaient les premiers fruits de toute l'Église qui allait venir, de vous qui êtes venus à croire en lui. Cette Pentecôte, c'était cette célébration. Et puis, il y avait donc une commémoration, une anticipation, et puis il y avait la fête des huttes, c'était à l'automne, c'était pour se réjouir des récoltes, et en même temps, c'était donc quelque chose de très joyeux, et on se souvenait aussi de la façon dont Dieu avait pourvu pendant la traversée du désert, en leur permettant de vivre sous des tentes, sous des huttes. C'était surtout contrairement à la fête des expiations, qui était une fête de deuil national, de péché, qui était pardonné parce que le grand prêtre versait le sang sur l'autel dans le Saint des Saints. La fête des huttes ou la fête des tabernacles, c'était la grande fête de joie. Toujours chapitre 16, verset 16. Trois fois par an, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira à la fête des pains sans levain, donc la Pâque, à la fête des semaines, la Pentecôte, et à la fête des huttes, ou la fête des tabernacles. Et une petite phrase, on ne se présentera pas devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon la bénédiction que l'Éternel ton Dieu lui aura accordée. Je crois que c'est un grand principe pour nous, quand nous nous rassemblons en congrégation, quand nous venons le dimanche matin, ou à d'autres moments, quel est mon état d'esprit? Est-ce que je viens les mains vides, en me demandant qu'est-ce que je vais bien pouvoir retirer de ce moment? Est-ce que je vais pouvoir pleurer sur l'épaule des frères, des sœurs pour recevoir de l'affection? Est-ce que je vais pouvoir faire part de mes besoins physiques? Peut-être quelqu'un pourra m'aider. Ou est-ce que je viens les mains pleines? Quand les mains pleines, encore une fois, c'est pas nécessairement pleines de ressources financières, mais ça peut être avec le souci de donner quelque chose à l'autre. Est-ce que je viens pour recevoir ou est-ce que je viens pour donner? Ça peut être de l'amour, ça peut être de l'attention, ça peut être de parler à quelqu'un qui est découragé, ça peut être d'essayer d'aider matériellement, d'aider pratiquement la personne. Est-ce que je viens pour essayer d'encourager quelqu'un, pour prier avec la personne? Ou bien est-ce que je viens de façon égoïste en me disant qu'est-ce que je vais pouvoir retirer? Et si je retire rien, alors je dis, bon, ben c'est fini, je vais plus dans cette église. Où est-ce que je viens pour servir? Encore une fois, une liste derrière, avec des opportunités de venir les mains pleines, de participer, de de donner de votre temps de vous-même. On ne se présente pas devant Dieu les mains vides, dans ce sens-là. C'est vrai qu'on doit reconnaître que sans lui on n'a rien, sans lui on n'est rien. Il y a l'image aussi de ces oiseaux qui viennent avec le bec grand ouvert. C'est vrai qu'on vient à Dieu journellement, quotidiennement, sachant que nous n'avons rien. Mais lorsque nous venons nous retrouver avec d'autres, nous avons toujours quelque chose à donner. Notre attention, notre amour, notre intérêt, notre temps, nos paroles. Et pas seulement des paroles, mais aussi des choses pratiques, concrètes. Amen. Pour terminer le chapitre 16, tu établiras pour toi des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne selon tes tribus. Ils te jugeront le peuple avec justice. Tu ne porteras pas atteinte au droit, tu n'auras pas égard à l'apparence des personnes, tu ne recevras pas de présents, car les présents aveuglent les yeux des sages et pervertissent les paroles des justes. C'est bien la justice que tu devras suivre afin que tu vives et que tu prennes possession du pays que l'Éternel ton Dieu te donne. L'établissement de juges pour régler les problèmes de litige entre frères et sœurs juifs. De la même façon, aujourd'hui, plutôt que d'aller, Paul nous disait de ne pas aller laver notre linge sale devant les tribunaux publics. L'Église peut être un endroit où des gens qui ont des différends entre eux peuvent venir et demander du conseil, demander à être conseillés pour savoir comment régler tel ou tel problème, tel litige avec un frère, avec une sœur, plutôt que de tout de suite aller coller un procès, aller écrire une main courante. Ça peut être dans tous les domaines, ça peut être dans le domaine des relations maritales, même des enfants qui doivent suivre un parent ou un autre, de la brutalité. L'Église doit être un endroit où les gens peuvent venir avec leurs problèmes, avant d'aller en parler dans des juridictions qui n'ont aucune considération, aucun égard pour Dieu. Puis, verset 21, « Tu ne fixeras aucun poteau d'achéra en bois à côté d'autel que tu élèveras à l'Éternel ton Dieu. Tu ne dresseras pas de stèle, ce pourquoi l'Éternel ton Dieu a de la haine. » Donc on retrouve un peu des leitmotivs, des répétitions dans cette répétition de la loi. Toujours ce problème de l'idolâtrie, qui était accompagné de pratiques immorales. Pas faire de représentation de Dieu matériel, comme on le disait la dernière fois. Je ne regarde la photo de Nancy que quand elle est loin de moi. Je ne regarde une statue, une photo de Jésus que quand je n'ai pas la réalité de sa présence dans ma vie. L'idolâtrie, c'est la preuve que Dieu, le Dieu vivant, est loin de moi. Je crois qu'on va arrêter là pour ce matin. On va commémorer justement cette célébration de Pâques, ce sacrifice de Jésus-Christ, en prenant la Sainte Cène. On va prendre d'abord un temps de recueillement pour confesser à Dieu nos péchés personnels. Si jamais on a quelque chose à se faire pardonner, ou on peut demander pardon à un frère ou une sœur, je vous invite vraiment à ne pas hésiter à le faire discrètement, pour que devant Dieu, vous ayez vraiment, soyez en paix avec tous les hommes. Nous allons nous souvenir de ce sacrifice qu'il avait fait, qu'il était à la veille d'être exécuté, il avait pris le vin, le pain d'abord, en disant que c'était ceci, il représentait son corps qui était brisé pour les péchés des hommes, et puis ce vin qui représentait le sang de la nouvelle alliance. Encore une fois, cette sainte cène est réservée à ceux qui ont déjà reçu le Seigneur dans leur cœur, qui ont prié pour que Jésus soit leur Seigneur, leur Sauveur. Si vous n'avez pas encore fait cela, je vous invite à attendre et à simplement méditer, profiter de ce temps pour prier Dieu, pour peut-être lui demander de venir dans votre cœur. Si c'est votre cas, vous pouvez lui dire une prière du genre « Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, je te demande pardon, je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés, et je te demande de venir dans mon cœur pour diriger ma vie, pour que je me détourne de mes péchés, et Seigneur, je te remercie, je te demande de m'aider par ton Esprit Saint à vivre comme tu le souhaites. Je demandais à James et à Paul Evans de bien venir prendre les éléments. Nous allons prier, ensuite ils passeront les prendre. Je vous demanderai d'attendre d'avoir tous ensemble reçu ces éléments. Et puis Tonio et Luc et Aaron nous mèneront dans quelques chants avant que nous prenions la Sainte Cène. Prions. Seigneur, merci pour ce sacrifice, pour cette Pâque que nous pouvons célébrer en esprit, Seigneur. C'est un rappel de ton sacrifice, cet amour volontaire, Seigneur. Tu es venu l'oreille ouverte, comme un esclave volontairement, parce que tu nous aimes, Seigneur. Nous voulons te demander pardon de tous nos péchés. Seigneur, tu connais chacun de nos cœurs, je te demande pardon pour mes péchés, Seigneur. Merci de les avoir portés pour moi à la croix. Seigneur, donne-nous à tous une horreur, une sainte horreur du péché. Et nous, Seigneur, à obéir à ta parole, Seigneur. T'adorer en esprit et en vérité. À t'aimer en aimant ceux qui sont autour de nous, Seigneur, en donnant de notre temps, de notre énergie, de nos ressources. Sois glorifié, Seigneur. Pendant que Paul et James passent les emblèmes, je vous invite à rester dans la prière et à prier à Dieu pour lui demander pardon et vous recueillir. J'ai passé les emblèmes. Seigneur, nous te remercions pour ce corps brisé qui est pour nous, qui est symbolisé par le pain, Seigneur. Nous recevons, Seigneur, avec gratitude. Prenons, mangeons le pain.